heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.
Hi everybody et bienvenue dans ce nouvel épisode de No More Mr. Nice Guy, la deuxième saison du feuilleton Rolyphonique. Je suis là avec tout le monde, est-ce que tout le monde va bien? Mathieu, ça va?
Très bien.
Aurélien, c'est bon?
Impeccable.
Lucie, c'est ok?
Super, comme d'habitude.
Jade, ça roule?
Ça roule.
Est-ce que tout le monde est prêt pour ce troisième épisode?
Ouais.
Oui.
Prête?
Prêt.
Allez, c'est parti, No More Mr. Nice Guy, Chapter 3. First step to vengeance. Vous êtes dans le petit salon de votre pension où vous habitez dorénavant. Et assis en face de vous, il y a ce jeune homme, Henry Jennings. C'est un noir, il doit pas avoir plus de 25 ans. Et surtout, il vous regarde avec de grands yeux dans lesquels vous sentez un mélange de peur, d'excitation. Il a son petit calepin. Et il répète ce qu'il vous a dit. Lorsque vous l'avez découvert à l'entrée de chez vous. Vous avez une déclaration?
Pas tout de suite. Mais par contre, on a un plan à te proposer.
Un plan? C'est-à-dire? Moi, je roule pas dans vos combines, hein. Si c'est pour faire un nouveau massacre...
Non. T'emballe pas. Juste, si tu veux avoir l'exclusivité de nos déclarations, on a un service à te demander en échange. Un truc pas bien compliqué, hein. Juste de la fermer, le temps qu'on te dise que tu peux parler de nous.
J'ai peur de comprendre... Vous voulez que je fasse pas d'article?
Pour en faire encore mieux, quand il sortira.
Ouais, mais vous comprenez pas. Si je suis là, c'est que la rumeur commence à se répandre. Si j'ai pas l'exclusivité maintenant, ben je l'aurai plus jamais.
Justement, ce qu'on veut, c'est que tu aies l'exclusivité de toute l'histoire. Du début à la fin. Tu le sens le prix Pulitzer?
Ok, j'ai une proposition à vous faire. On fait votre interview maintenant. Exclusive. Vous me racontez tous les détails de votre version des faits. Moi, je la publie pas jusqu'à ce qu'un collègue publie la sienne. Mais à ce moment-là, je la sors. Pas le choix.
La rumeur dont tu parles là, elle vient d'où au juste?
Pensiez pas que ça allait entièrement passer inaperçu quand même. Le directeur de la prison est pas hyper content de vous avoir vu partir. Et vous vous doutez pas de qui j'ai eu le tuyau?
Ben, si tu nous le dis comme ça, on sera bien bien sûr.
Ouais, vous vous doutez pas quoi. Ok, vous savez qui vous paye votre baraque quand même?
Bah, oui, quand même.
Ok, et ben c'est par lui que j'ai eu le tuyau.
Mais pourquoi il irait balancer ça?
Vous comprenez pas que vous avez tout intérêt à ce que les gens sachent que vous êtes dehors?
Justement, on a tout intérêt à ce que les gens ne sachent pas qu'on est dehors.
T'es sûr? Le maire Palmer a tout intérêt à ce que vous soyez un peu visible sans qu'on sache que c'est lui qui vous rend visible. Parce que comme ça, ses adversaires peuvent pas vous éliminer. Ce qui accrédite votre version des faits, parce que si on vous fait taire, c'est que forcément vous avez des choses à dire et donc qu'il y a des personnes qui ont des choses à cacher. Moi j'étais trop gamin à l'époque où ça s'est passé, mais c'est pas pour rien que je suis devenu journaliste. Quand je vois un... Enfin, tout le monde sait, quand le coupable est trop beau, c'est qu'il y a un lièvre. Si je suis venu ici alors que je suis noir et que je pourrais être mort de trouille, c'est que franchement j'ai l'impression que... C'est trop gros pour vous, ce qui est arrivé. C'est pas possible, vous étiez tous des gens, bon, ok, peut-être pas les mecs les plus honnêtes du monde, mais c'était pas votre genre, vous êtes jamais fait distinguer. Et puis, Monsieur O'Hara, on le connaît bien, il faisait partie du régiment Harlem, il allait pas tout d'un coup commettre un massacre raciste comme ça. Moi, c'est la meilleure solution que je puisse vous proposer. Vous allez être reconnu à un moment, une vieille va vous reconnaître. Eh ben, plutôt que de subir le moment, moi je vous propose de le contrôler.
Ok, t'as fait ton point. Par contre, ce qu'on a à te raconter, ça va prendre plus d'une seule session d'interview. Il va falloir que tu nous laisses un petit peu de temps pour qu'on démêle les informations qu'on n'a pas encore tout à fait.
Ok, mais on fait quand même une interview maintenant. Promis, je la sors pas jusqu'à ce qu'il y ait un autre journal qui sorte quelque chose.
Bon, allez, on lui fait sa petite interview, comme ça on peut de suite se reconcentrer sur ce qui nous intéresse vraiment.
Eh ben très bien, vas-y Declan, c'est toi qui commences. Les autres aux prochaines sessions.
Ça a pris plus de temps que vous le pensiez, car forcément vous avez tous eu des choses à rajouter au récit de Declan. Et Jennings s'en va avec un air extrêmement pensif. Vous êtes maintenant seul dans votre petite pension de famille, La nuit a été longue. Si vous comptez ne pas dormir, c'est possible, à vous de me le dire. En tout cas, qu'est-ce que vous faites maintenant ?
Je pense que ce serait intéressant qu'on prenne quand même quelques heures pour se reposer. Ça nous fera du bien. Et demain matin, on ira déposer les maigres informations qu'on a pu collecter à la gare.
Quelques heures plus tard, Central Station. La foule bigarrée qui vous entoure et le brassage quotidien de ceux qui arrivent avec le regard plein de rêves, ceux qui partent pour des voyages d'affaires. Vous êtes confortablement installé dans cet anonymat, devant le hall d'entrée de ce bâtiment qui est un des plus beaux de la ville. Que faites-vous maintenant ?
Bon, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Et puis même si ça me plaît pas beaucoup, va falloir confronter tous ceux qui nous ont volé notre vie et les mettre face aux conséquences de leurs actes.
Très bien, mais pour moi ça se fera pas sans armes. Surtout si on veut rendre hommage à quelqu'un comme Seamus Murphy, par exemple.
Dans tous les cas, ce qu'on veut faire, ça va nous demander un petit peu de préparation. Peut-être qu'on peut se séparer et faire un point un petit peu plus tard sur ce qu'on a réussi à mettre de côté. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je fais immédiatement un petit tour de table pour savoir qui fait quoi, et je commence immédiatement par Lou.
Je vais partir à Paddy Hill avec deux de mes collègues afin d'assurer leur sécurité.
Et les collègues en question sont ?
Moi.
Et moi ?
Très bien, donc Declan et Sirsa. Et pendant ce temps, Monsieur O'Meara ?
Comme je le disais, il nous faut des armes. Et du coup, je cherche où mes contacts. Là-dessus, notamment du côté de Roy Constance en passant par son bras droit, Eddie White.
Très bien, donc tu te rends plutôt vers Haysbury Park. C'est parti. Je vais commencer par toi, Tom. Tu mets une petite heure à rejoindre le quartier d'Haysbury Park, qui est le ghetto noir de la ville de Heaven Harbor. Et te revoilà à arpenter les rues malfamées de ce quartier. Curieusement, tu ne t'y sens plus autant chez toi qu'à une certaine époque. Et tu approches de ce qui est sans doute l'un des plus beaux bâtiments du coin. Une ancienne hacienda ou quelque chose comme ça, en tout cas un bâtiment de plusieurs étages, à la façade pas trop décrépite. Et tu sais que c'est là que vit ton ancien ami Ray Constance, qui est un peu le chef de tout ce qui est gang et trafic divers dans Haysbury. À l'entrée, il y a un garde du corps. Qui t'es, toi ?
Une connaissance de Roy Constance et d'Eddie White.
Un client, tu veux dire ?
Oui, si on veut.
T'as rendez-vous ?
Non, mais... Vous avez juste à décrire ma trogne et je pense qu'il descendra.
Et ta trogne, elle a un nom ?
Dites-lui que un ancien du régiment Harlem est là.
Te regarde de haut en bas. Manifestement, tu ne corresponds pas à la description de base du régiment Harlem. Et il remonte. Quelques instants plus tard, il redescend, te fait une palpation, je suppose que tu n'es pas armé. Et ensuite, tu le précèdes dans l'escalier. On te fait entrer dans le bureau de Constance. White n'est pas là. Mais Constance, lui, est là, derrière son bureau, en train de fumer une clope. Tu remarques immédiatement que quand le garde du corps te fait entrer, il ferme la porte et se tient devant, en restant dans le bureau.
Je m'approche du bureau. Je me retourne vers Euro Constance avec un air interrogateur.
Constance a l'air en colère. T'as dû touper de venir ici, toi. Et franchement, je sais pas vraiment si tu vas en ressortir. Enfoiré.
Est-ce que j'ai une chance de donner ma version des faits ?
Il me semble que tu l'as donné en long, en large et en travers. Le coup de la drogue, c'est sympa, mais ça tient pas tellement la route, non ?
C'est bien ça, le pire.
Je suppose que t'es là en plus pour me demander un service ?
Oui, mais un service pour nous deux.
Assieds-toi.
Je m'exécute.
Il se penche en avant, il met les coudes sur le bureau Il croise les mains. Explique-moi et sois convaincant. Sois convaincant comme t'as jamais été convaincant. Sois bien plus convaincant qu'à ton procès, parce qu'ici la sentence sera donnée rapidement. Et c'est juste parce que je connais ton passé que je te laisse me parler.
Justement, mon passé. Je me relève pour mettre à sa hauteur.
Quand tu te lèves, tu entends immédiatement le bruit d'une arme que l'on charge derrière toi.
C'est justement quand on regarde mon passé qu'on peut s'interroger pour ce qui s'est passé exactement. Ça ne te semble pas bizarre ?
Ça ne semble pas bizarre, tu serais pas le dernier petit blancos à avoir soi-disant été pote avec des petits noirs pour pouvoir ensuite se retourner contre eux. Non, ça me semble pas bizarre.
Tu crois qu'avancer sur l'Allemagne, c'est être pote avec...
Je m'en fous de l'Allemagne ! J'avais un cousin là-bas, des gens que je connaissais qui ont crevé dans ce club. Alors ton Allemagne, tu peux te la carrer où je pense. Explique-moi ce qui s'est passé ce soir-là, tout ce qui s'est passé en 14-18. J'en ai rien à foutre ! Pose ton cul sur cette chaise et tu t'en relèves quand je te le dis !
Effectivement, tu as raison quand tu dis que je suis venu demander de l'aide et un service. Je suis là pour me venger de ceux qui se sont servis de moi et des compagnons d'infortune avec qui j'étais pour faire ce massacre. Et comme toute vengeance, œil pour œil, dent pour dent, tu es bien placé pour le savoir, il me faut des armes.
Tu m'as toujours pas convaincu, Omera. Pendant ce temps, à Paddy Hill. Où vous rendez-vous, tous les trois ?
Eh ben, on va déposer Declan chez lui.
On va pas juste le déposer devant la porte, hein. On va attendre qu'il entre dans la maison et bien montrer qu'on est là, histoire d'être sûr qu'il ressorte de la maison en entier.
Declan, tu entres comment ? Tu rentres directement ? Tu frappes à la porte ? Tu sonnes ?
Je frappe à la porte. Et j'attends qu'on vienne m'ouvrir, je n'entre pas de moi-même.
Tu t'y reprends à plusieurs fois, car tu as entendu des pas à l'intérieur de la maison, mais ça ne venait pas. La porte s'entr'ouvre, manifestement coincée par une petite chaînette. Et c'est le visage de ton ex-femme qui s'encadre dans l'embrasure. Immédiatement, elle referme.
Shannon, tu me connais assez pour savoir que je n'ai... réellement rien fait dans ce bar. Tu me connais suffisamment pour savoir que, bien évidemment, c'est un coup monté.
Comment je peux savoir que je te connais si bien que ça ? Il y a des tas de gens qu'on croit connaître et qui font des choses horribles. Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? T'avais rien à faire là-bas.
Je rendais un service. J'amenais un paquet.
Tu es des gens, ça n'a jamais rendu service à personne.
Je veux parler à mon invité. Est-ce que Sean est là ?
Non.
Est-ce que mon invité est là ?
Non plus. Il est avec Sean.
Où sont-ils ?
Je m'intéresse pas tellement à ce qu'il fait dans la journée. Lui, au moins, je sais que ce qu'il fait est à la frontière. Il ne me cache rien là-dessus. Et au cas où, je te rappelle que je suis toujours aussi forte au fusil et que j'ai le fusil de chasse de mon père dans les mains.
Mais je sais aussi que... moi, je ne te ferai rien. Certes, il y a 7 ans qui se sont passés, Shannon, mais pour moi, ça n'a pas changé. Tu es ma femme ?
Non, plus maintenant. Tu le sais très bien. Tu as signé les papiers.
Aux yeux de la loi, peut-être. Mais pour les Cid, nous sommes toujours mari et femme.
Tu entends un rire quand tu prononces cette phrase derrière. Un rire avec un mélange de larmes. Qu'est-ce que tu racontes ?
Eh bien, en prison, j'ai compris que toutes ces histoires de religion catholique, c'était notre vieille religion gaélique qui était toujours présente.
C'est bien ça, tu es fou, tu es complètement fou, tu étais déjà fou à l'époque. Va-t'en, va-t'en ou je tire à ta vers la porte.
Dis-moi juste où je peux trouver Sean, et je ne reviendrai plus.
Commence par le Doulis, sans doute.
Merci. Je t'aime toujours. Au revoir.
Je ne te demande pas ce que tu me veux, Omera. Je te demande de me convaincre de ne pas te tuer ici et maintenant. Sauve ta peau, ne me demande pas de service.
Tu crois vraiment qu'après tout ce que j'ai enduré...
Arrête avec l'Allemagne et ton putain de régiment Harlem!
Je te parle pas d'Allemagne, je te parle de 7 ans de prison.
7 ans de prison pour Sandy Maccabée. Excuse-moi de te dire ça, mais pour moi, ça joue pas en ta faveur.
110 personnes que je n'ai pas tuées. 110 personnes qui ont été victimes. Victimes d'un acte odieux, mais dans lequel je n'ai rien à voir. Et sur lequel mon nom a été entaché.
Tu entends la porte qui s'ouvre et des pas. Il y a 3 autres gros bras qui viennent d'entrer. Ils ont l'air d'être prêts et avoir envie d'en découdre.
Alors c'est évident. J'ai une bonne tête de bouc émissaire.
Présente-toi comme une victime. C'est bien, tu m'as pas convaincu. L'un des gros bras, le premier, celui qui t'a ouvert, t'attrape par le col et te colle une droite qui t'envoie valser à travers toute la pièce. Le deuxième vient immédiatement t'envoyer un petit pointu du pied au creux de l'estomac. Et tu te fais passer à tabac dans les règles de l'art. Tu vas t'enlever 50 points de solidité.
Je me relève. C'est bon, je peux avoir mes armes maintenant.
Pendant ce temps, à Paddy Hill.
Bon, du coup, Declan, tu viens avec nous ?
Oui, bien sûr. Tout va bien. Elle comprendra avec le temps.
Si tu le dis.
Ce qui a été fait par Lycide ne peut pas être défait.
Declan, je t'enlève quand même 20 points dans ta cave d'aplomb. Tu n'en laisses rien paraître, mais tu es un peu secoué. Que faites-vous, tous les trois ?
Apparemment, notre invité et Sean seraient peut-être aux Doulises. Ou en tout cas, là-bas, ils sauront où le trouver. Si on veut mettre en place ce dont on a parlé pour Seamus, je pense qu'Hermès pourra nous aider à... Parce que je suis qu'un débutant, moi, en possession. Faire rentrer un esprit dans un corps tout juste mort, voire peut-être encore vivant, c'est autre chose que de juste parler avec des lépreconnes.
Bah, ça tombe plutôt bien, non ? C'est par là qu'on voulait commencer, non, Lou ?
On peut commencer par aller aux Doulises et voir comment ça se passe. Au pire des cas, on ira toujours voir Monsieur Flanagan.
C'est parti.
Lorsque vous entrez dans le Doulises, je ne vous cache pas qu'il y a comme une espèce de gros silence qui se pose dans la salle. Il y a Mickey qui est là. Je ne sais pas si tu te souviens de Mickey, Lou.
Je me souviens de Mickey. Je lui fais un grand sourire. Salut Mickey, comment ça va ?
Ça va ?
Tant mieux, je lui mets une petite tape sur l'épaule et je m'avance vers le comptoir.
Il se raidit lorsque tu fais ça. Le mec derrière le comptoir, tu le connais pas.
Bonjour.
Salut. Qu'est-ce que vous avez fait à ces gars ?
Oh, je vais pas tout vous raconter, c'est très très long, mais c'est moi qui tenais l'ordre ici pendant un certain temps.
Il te regarde de haut en bas, il fait...
Elle est bonne. Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Une bière pour monsieur, une tisane pour ces dames ?
Pas pour l'instant, merci. Est-ce que vous savez par hasard si Sean est passé par là ?
Il a un petit arrêt dans son mouvement qui aurait presque été imperceptible si vous n'aviez pas eu l'habitude avant qu'il nous réponde. Non, pas du tout.
Menteur ?
Tu préfères qu'on passe directement par la porte de derrière ou on te redemande gentiment ?
Écoutez, mesdemoiselles, c'est bien beau d'essayer de... Quoi, Mickey ? Alors, derrière vous, il y a Mickey qui fait des gestes de bras, qui manifestement essaie de lui dire « Arrête de faire ça ! Arrête, non, dis-leur, c'est bon !»
J'attrape Mickey par le col, je le rapproche d'une façon un peu violente du comptoir, et je lui dis « Bah vas-y, Mickey, explique-lui. »
« Non, non, mais ouais, c'est des copines de Sean, il sera content de les voir. Declan est un ami, toi t'es pas du quartier, tout le monde le connaît ici. Hein, Declan, ça va Declan ? La bière est pour moi, hein, y a pas de problème. Hein ? Oui, et Sean, je l'ai vu entrer, il est en haut, Lou. Hein, tu peux me lâcher le bras ? » ?»«
Merci, Mickey, ça fait plaisir de te revoir. Tu lui expliques pendant qu'on est en haut, comme ça, quand on descend, y a plus de problème. » »«
Ouais, après, tu sais, je pense que... » »«
Non, c'est un ordre. » »«
Ok. » »«
Je prends les devants, on monte. »
Par contre, pour la tisane, vous me la laissez de côté, je viendrai la prendre après.
Et vous montez, tandis que le barman était en train d'essayer de comprendre avec Mickey pourquoi il a peur de toi, et il se fait traiter de tous les noms, tandis qu'il constate avec effroi que la moitié du bar est d'accord avec Mickey, globalement. Vous montez à l'étage,
Et je ne sais pas si vous vous souvenez du Doulis où vous aviez vos habitudes. À l'étage, il y a une espèce de petit appartement qui sert souvent de planque. Quand quelqu'un a besoin de se mettre au vert un petit moment dans la communauté. Et lorsque vous y entrez, eh bien, vous trouvez Hermès.
Ah, salut les copains! Ça va?
Je pense qu'on a des choses à se dire, Hermès.
Ah ben, quand vous voulez.
Et pendant que tout le monde discute avec Hermès, nous allons faire une petite pause et écouter Aurélien qui va nous parler encore une fois des merveilleuses inventions des années 40.
Le 21e siècle, le futur, toute cette technologie qui semble être proche de la magie, faire apparaître des fantômes, photographier en trois dimensions, sans lunettes, tout voir. L'holographie est née dans l'esprit de Denis Gabor, un ingénieur hongrois qui a dû fuir l'Allemagne en 1933, car le pouvoir en place était un peu tendu en matière de tolérance en ce temps-là. Cette fuite l'amena dans la ville de Rugby, en Angleterre, ville fameuse pour être le lieu de naissance de cet épanchement sportif qui enjaille les mangeurs de chocolatine, appellation qui est la plus jolie et la plus juste, je le rappelle. Bref, Denis a pour projet de voir petit, tout petit, réellement tout petit, de voir les atomes cachés au cœur de la matière. Et il s'y connaît en matière d'optique. Il imagine alors comment reconstruire une image en jouant sur les interférences, la façon qu'ont les ondes d'interagir quand elles se croisent. Bon, pour faire simple, l'idée est d'enregistrer la phase et l'amplitude d'une onde diffractée par une surface éclairée à l'aide d'un faisceau de lumière cohérente. C'est trivial, comment n'y avait-on pas pensé plus tôt? Pour les applications pratiques, il faudra attendre les années 60 et le perfectionnement des lasers pour que s'ouvrent les portes de la troisième dimension photographique. Mais l'idée de tout représenter, holos graphein comme disaient les Grecs, c'est Denis qui a eu cette idée. Cette idée lui vaudra un prix Nobel et elle ouvrira la porte à un univers complexe et merveilleux où se côtoient les clés de sécurité et les sculptures lumineuses, le codage informatique et les « au secours, vous êtes mon seul espoir ». Et cette idée futuriste nous vient elle aussi de 1948. Décidément, cette époque est riche et foisonnante. Le futur, c'est déjà hier en quelque sorte.
Tom, tu es de nouveau assis sur la chaise du bureau, mais cette fois tes dents sont plus douloureuses, enfin celles qui restent. Tu sens ton œil droit en train de gonfler, car manifestement ton petit trait d'humour de tout à l'heure a moyennement plu à la joyeuse bande de Constance. Tu as perdu 40 points de solidité supplémentaires sur la deuxième couche du passage à tabac. Et Constance se remet dans la même position que tout à l'heure. Ok, tu veux te venger, c'est bien. Mais tu me dis qu'il y a des gens, que t'ont volé ta vie, que c'est un complot. Je connais tellement de potes qui ont utilisé cet argument, c'est bien. Et tu veux des armes pour te venger, c'est bien. Mais dis-moi, tu sais qui c'est ces gens, moi?
Je peux déjà te donner le... Ah. Je peux déjà te donner un nom. En tout cas, le premier sur la liste.
Bobby, notre invité a un peu mal, là. Donne-lui un verre, ça va le rafraîchir. Et Bobby te jette un verre de whisky juste sur la blessure ouverte.
Seamus Murphy.
Seamus Murphy serait derrière le massacre du Gate.
Je te demande pas de juger les noms que je te donne, je te demande de les écouter.
Ah, il y en a plusieurs en plus. Vas-y, bientôt il va me dire que c'est Palmer.
En plus de Seamus Murphy, Gordon et Kelly.
Là, il se carre bien dans le dossier de son fauteuil. Mais pourquoi ils auraient fait ça?
Je mets mon doigt dans le reste de verre de whisky et je me rince un peu la bouche avec. Ça, je m'en fous de savoir pourquoi ils l'ont fait. Ils l'ont fait.
Moi, je m'en fous pas. T'oublies un petit peu pourquoi t'es là. Rappelle-toi que t'es pas là pour négocier des armes, t'es là pour négocier ta vie. Alors tu me dis ce que je te demande.
Eh ben, je te promets une chose, c'est qu'avant de les buter, je les interrogerai.
J'y gagne quoi, moi?
D'avoir les vrais coupables du massacre.
Reste à voir.
Si tu n'es pas convaincu après la disparition de Murphy, Gordon et Kelly, tu feras disparaître Omera.
je te laisse le bénéfice du doute. C'est-à-dire que tu vas sortir d'ici vivant. Et si vraiment j'entends parler que l'un des trois disparaît dans les prochains jours, reviens me voir avec des arguments, des preuves. Pas des... Et j'ai fait partie du régiment Harlem, j'aurais jamais fait ça. Allez, dégage ta gueule blanche de chez moi.
Très bien.
Qu'est-ce que je peux pour vous, alors ?
Bon, t'es au courant qu'il y a plein de gens qui sont impliqués dans toute cette affaire.
Ouais, par contre, j'étais pas au courant que c'était ton ex-femme chez qui tu m'as fourgué la dernière fois. Je te raconte pas comment c'était gênant !
Oui, mais tu sais, dans tous les couples, il y a des petites disputes de temps en temps.
Non mais t'es taré ou quoi ? Elle pense que t'as massacré la moitié de la ville !
Elle a pas encore compris. Mais ce qu'on va mettre en place, ça va permettre de la convaincre. Après, je sais qu'elle a des sentiments pour Sean. Peut-être qu'on se retrouvera pas tout de suite. Mais ça ira.
La Hermès qui se tourne vers vous, elle fait...
Waouh ! Il est complètement taré. Bon, je vais pas essayer de percer tes illusions. Parle-moi de trucs concrets. Qu'est-ce qu'il vous faut ?
Eh bien, c'est quelque chose de très simple. On s'est dit que, puisque ces gens-là nous ont volé notre vie, eh ben nous, on a envie de leur voler leur mort.
Tu vas les rendre immortels ?
Mais, en fait, on aimerait les rendre un peu comme toi.
Vous voyez que les petits rouages se mettent en place dans sa tête, il dit.
Quoi ? Tu veux en faire des possédés ? Mais comment ? Pourquoi ? Qui ? Où ?
Tout se négocie. Il suffit de trouver la bonne personne au bon moment et normalement, d'après ce qu'on m'a dit, ça passe.
C'est qui t'a dit ça ?
C'est quelqu'un dans mes rêves.
Et il se retourne vers vous deux, les filles, et il dit...
Waouh ! Mais il a toujours été comme ça ou il a vrillé en tôle ?
On te demande pas de juger, on te demande de nous dire si c'est possible.
J'en sais rien, moi je suis pas invocateur.
T'en connais rien d'invocateur par hasard ?
Mais moi je peux le faire, moi. J'ai déjà discuté avec des démons et tout ça, en prison et tout. Même avec des léprocones.
Ouais, les gens dans ta tête qui t'ont appris.
Declan, on est d'accord que t'as quand même besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux pour invoquer des gens dans les morts.
Concrètement, t'as déjà fait une invocation ou pas ? À part dans tes rêves, je veux dire.
Une fois en prison, oui, si, il y a un gars qui est venu, une fois. Mais bon, il n'est pas resté longtemps, puis vu que je voulais juste voir si ça marchait, bah, la négociation, c'était juste, tu viens, et puis tu repars. On n'a pas vraiment établi des termes très approfondis, mais je pense que je... Bon, d'accord, oui, il me faudrait quelqu'un pour m'aider.
Ok. Alors, je vous file cette adresse. C'est une succube que je connais. Elle se fait appeler Cordelia. Cordelia Rumiccia. Elle habite à Little Italy. Elle s'est adaptée. Par contre, faites gaffe. En gros, elle bosse souvent pour la mafia locale. Histoire d'aider un peu les parrains, quoi. Elle est un peu chère, mais si c'est juste pour des conseils, on sait jamais. C'est la seule que je connaisse vraiment. Si vous venez de ma part, elle vous ouvrira.
Merci Hermès, c'est sympa. Et du coup, Sean, il t'a installé ici en attendant ?
Ouais, rapport au fait qu'il trouvait que ça craignait que je sois près de sa femme. Enfin, pas à moi, mais si quelqu'un venait me chercher.
C'est assez raisonnable.
Il risque de me faire bouger régulièrement, mais je tâcherai de vous tenir au courant.
Tâche de lui faire savoir qu'on a cherché à le trouver, qu'on l'a pas trouvé, et que ce serait quand même vachement sympa qu'on ait un endroit où on puisse éventuellement le croiser quand on a des choses à faire et à voir avec lui, notamment savoir où tu es.
D'accord, je transmettrai le message.
Et dis-lui aussi que...
Eh les gars, y a pas écrit facteur sur ma gueule. Non, parce que si c'est pour que tu me fasses transmettre un message gênant en rapport à ta femme et tout ça, je préfère que tu le fasses directement, d'accord ?
Mais oui, mais si je sais pas où il est ?
Mais tu connais son adresse ! Évidemment, je te viens en pleine journée, il bosse ? Eh bah oui, mafieux, c'est un boulot à plein temps.
Bon, allez les gars, on arrête de traîner, on y va ? Faut encore qu'on passe voir Flanagan avant d'aller voir Cordelia.
Tom, que fais-tu en sortant de chez Constantine, la démarche un petit peu raide ?
Je rentre à la maison, à la nouvelle maison. Je me fous sur le canapé, avec un gant froid sur la tête, et une bouteille de whisky à portée de main.
Ah, elle revient à portée de main. Vous avez toujours la très bonne bouteille que Parks vous a laissée la dernière fois.
Feu la bouteille de Parks.
Vous passez chez le père Flanagan dans sa petite église. Lorsque vous arrivez, la première chose qu'il fait, c'est de te prendre dans ses bras. Sou. Personne m'avait dit que t'avais été libéré. Comment ça se fait qu'on t'ait pas extradé? C'est fou. Oh, je suis content de vous voir aussi, bien sûr, les autres. Pardonnez-moi. Vous buvez quelque chose?
Mais vu qu'on n'a pas pris la tisane, moi, je suis pas contre une petite herbe chaude.
Allez, je te fais un thé. Les filles, on se prend une vraie boisson d'homme, nous?
S'il te plaît, allez.
Bien, qu'est-ce que je peux pour vous? Vous avez besoin de partir? Vous vous êtes évadé?
C'est un petit peu plus compliqué que ça. Disons qu'on a été libérés pour mettre des bâtons dans les roues des gens qui nous ont fait enfermer.
Ça me plaît. Mais bon, ça veut dire que vous passez d'un marionnettiste à l'autre.
C'est un peu ça. Et ça nous plaît moyen, mais c'est un peu la seule façon qu'on a pour l'instant de récupérer notre liberté. Alors bon, on fait aller.
Arrête de tourner autour du pot. Je te connais comme si je t'avais fait, je sais d'où tu viens. C'est la seule manière que t'as d'avoir la liberté de te venger.
Exactement.
C'est pas moi qui vais être contre. Dieu pardonne l'injustice, mais laisse aux hommes le moyen de régler les choses ici-bas.
Je savais qu'on aurait la même façon de voir les choses.
Et puis, l'avantage d'être catholique, c'est qu'il y a la confession.
Amen.
Très bien. Je peux vous fournir quelque chose?
Des armes, éventuellement?
J'ai pas grand-chose. Des armes de poing? Ça, je peux vous en fournir. C'est assez facile. En attendant, je peux vous filer... Vous êtes toujours quatre?
Toujours. Toujours.
Eh ben, je vais vous sortir quatre pétoires.
Et mon père, on aimerait faire surveiller chez Miss Murphy. T'aurais pas un ou deux petits enfants de cœur qui pourraient se poster là-bas et jeter un coup d'œil pour nous?
Excuse-moi, Sou, mais... Je vais te dire non pour cette fois. Je t'explique pourquoi. L'adresse de Murphy, je vous la fournis sans problème, elle est publique. Par contre, c'est une ordure au dernier degré. Les histoires de vengeance, tu vois, moi, je fais pas ça comme au pays. J'implique pas les gosses dedans. Ce type est capable de les dépiauter s'il s'en rend compte. Mais voilà son adresse. Il habite près de l'église Saint-Victor, au pied de Paddy Hill.
Merci mon père. Et puis, on passera vous écouter dimanche prochain.
Bah, je lirai les journaux. Et puis, comme disent les espingouins, Mikasa et Sukasa.
Merci monsieur Flanagan.
Mon père, s'il te plaît.
J'y crois pas.
Ça empêche.
Ok, mon père, allez. Tu m'as bien appelé Sou pendant des années, je vois pas en quoi ça te dérange. Parce que j'ai un père, et je l'aime pas.
C'est pour rien, moi. Il vous ramène 4 pistolets, dont il ne peut s'empêcher de passer près du bénitier et de les asperger d'un petit peu d'eau bénite avant de vous les donner. Et il vous libère. Vous rentrez à la maison. Et sur le canapé, en train de ronfler avec une serviette sur la tête et une bouteille de whisky vide qui a roulé près du fauteuil, vous trouvez Tom.
Ah ben on voit que les bonnes résolutions tiennent pas très longtemps, Tom. Je lui mets un coup de taloche dans le pied.
Ça ne le réveille pas immédiatement, mais fait tomber la serviette et tu vois son visage qui ressemble plus à un tableau expressionniste qu'à sa gueule d'habitude.
Bah je suppose que ça a pas trop bien fonctionné son idée.
Tu te réveilles.
J'avais oublié que ça faisait mal à la tête. Ah non, c'est peut-être pas l'alcool. Non, ça a pas marché. Enfin, ça marchera peut-être la prochaine fois.
Si ça peut te consoler, on a Dieu de notre côté. Et je pose le pétoir devant lui.
Ah non, elle est sympa votre religion.
C'est des Colt Navy, qui sans doute ont été piqués à l'armée anglaise pendant la Deuxième Guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Donc de vrais pistolets automatiques.
Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi on en a quatre.
Tu dis ça parce que j'utilise toujours mon flingue?
Je dis ça parce que moi, ça, je peux, je touche pas ça. Je sais pas comment mon. Oh, ça me met mal à l'aise.
Ouais, mais c'est pas grave. Tu me laisses le tien. Avoir deux pistolets, c'est en avoir un au cas où il y en a un qui tombe en rade. En avoir qu'un seul, c'est en avoir zéro si on a un qui tombe en rade.
Je comprends. C'est les mathématiques catholiques, c'est ça?
On peut voir ça comme ça.
Et vous avez trouvé un moyen de choper Chimus?
On a son adresse.
Alors je me lève péniblement. Alors qu'est-ce qu'on attend?
Si on veut faire tout le plan qu'on a dit, c'est-à-dire choper Chimus, le faire parler, puis ensuite, pour bien marquer le coup, faire de lui une porte pour les démons comme ils ont fait de nous, bah, ça va nous prendre un petit peu de temps d'organisation. Faut que je passe voir quelqu'un pour gérer les derniers détails. Mais je suis sûr qu'on va y arriver.
Mais du coup, on se disait qu'on pourrait peut-être se relayer à son adresse, histoire de surveiller un peu ses mouvements, et puis d'être plus discret que si on était plusieurs. Repérer un moment intéressant pour l'attraper, le garder, lui faire mal.
Je vous garantis pas de garder le sang-froid si je le vois passer devant moi.
Bah, ce serait bien que tu te retiennes le temps qu'on puisse avoir les infos qu'il nous faut et que Declan puisse faire le taf.
Ou alors, bah, Tom, tu viens avec moi, on va voir la succube. Et comme ça, je suis en sécurité.
Une quoi?
C'est une dame.
Je sais, mais qu'est-ce que... tu crois que c'est vraiment le moment, Declan ?
Ah, mais c'est pas pour moi.
Non, c'est pas pour moi. Alors, du coup, c'est gentil, Declan, mais non, merci.
Mais non, c'est pour Chimus.
Comment ? Oh là, qu'est-ce qu'il me dit ?
Mais non, hé, Tom, on t'a dit qu'il avait besoin d'un coup de main. Hermès nous a donné le contact de quelqu'un qui peut nous aider. S'avère que c'est une succube, mais c'est un hasard.
Ouais, commence par là.
Bon, du coup, on fait ça. Vous allez voir la succube, et nous, pendant ce temps, on se relaie pour surveiller l'autre.
Et tandis que notre équipe met en place son plan, nous allons maintenant écouter Jeanne qui va nous reparler des mystères de l'Amérique.
Salut à toi, auditeur. Aujourd'hui, nous allons nous promener dans les grandes étendues sauvages du continent nord-américain. Plus précisément dans le comté de Skamania, dans l'état de Washington. Oui, fermez les yeux. Imaginez une forêt immense dans laquelle vous marchez. Vous n'avez croisé aucun signe de civilisation depuis plusieurs heures. Vous êtes probablement dans une partie de la forêt qui n'a encore jamais été visitée par l'homme. Vous vous arrêtez près d'un ruisseau pour vous désaltérer. Vous profitez du calme ambiant. Votre regard est attiré par une forme au sol. Une trace de patte, de pied. En tout cas, quelque chose de gigantesque. Un ours ? Non, un Sasquatch. Enfin, un Yeti d'Amérique, quoi. Mais si, vous savez parfaitement de quoi je parle. Bigfoot, une créature humanoïde légendaire qui vivrait au Canada et aux États-Unis. Voilà ce qu'on en sait. Petit 1, il ressemble comme deux gouttes d'eau au Yeti, son cousin d'Himalaya. Excepté le poil, qui est brun en Amérique et blanc en Asie. Petit 2, il se déplace sur ses pattes arrière et fuit l'homme, qui essaie de le tuer, du coup c'est compréhensible. Petit 3, le nombre de témoignages et de lieux où il aurait été vu laisse à penser qu'il serait en réalité plusieurs. Lorsque les premiers Européens débarquent aux Amériques, le Sasquatch est déjà mentionné par les peuples amérindiens. Ils évoquent dans leur mythe des populations de géants vivant au cœur des forêts. Et les Occidentaux en voient, eux aussi. En 1924, une bande de créatures anthropomorphes aurait enlevé un certain Albert Ostman, qui se serait échappé grâce à son tabac à priser. Si, si, je vous jure. En 1958, on photographie des empreintes géantes sur un chantier en Californie. En 1967, les premières images d'un Sasquatch sont enregistrées. Bref, vous l'aurez compris, les Bigfoot deviennent des stars. Certains refusent d'y croire sous prétexte qu'on n'aurait jamais trouvé de squelette, d'autres défendent leur existence sous prétexte que oui, mais on en a quand même vu des vivants. Et de multiples théories sont avancées par les deux camps. Tout ça pour vous expliquer, chers auditeurs, que depuis 1969, dans le comté de Skamania, la loi indique que harceler un Bigfoot, Sasquatch ou toute autre espèce non encore découverte est un crime passible d'amende et d'emprisonnement. Donc si un jour, en vous baladant, vous tombez par hasard sur un bipède géant à l'allure de singe, gardez-vous d'aller lui gratouiller le torse ou de lui tirer dessus.
Le soleil commence à se coucher sur Raven Harbor, encore une belle journée de printemps. Et tandis que la baie s'embrase du soleil couchant, Declan et Tom approchent d'une petite maison dans le quartier italien de Little Italy. C'est une maison coquette. Il y a une sonnette électrique, je suppose que vous sonnez.
Oui, car c'est comme ça qu'il faut faire.
Et bientôt, un jeune homme très beau vous ouvre.
Ouais, c'est pourquoi, mes chéris.
Bonjour, on vient de la part d'Hermès pour voir Cordelia Rumicia.
Vous n'avez pas la tête des amis habituels d'Hermès. Vous êtes bien trop bien habillés et vous sentez bon. Enfin, à part le grand là qui pue le whisky et qui manifestement est passé sous un camion. Ça va pas trop, mon poulet ?
Je le prends par le col. Je fais le monsieur t'a demandé Cordelia.
C'est elle-même. Et elle aimerait bien que tu le lâches, sinon il va t'arriver des bricoles, mon joli.
Ah,
son visage se transforme pour pouvoir devenir celui d'une femme magnifique. Car en effet, de nombreuses succubes peuvent changer leur genre à volonté.
Excusez-nous notre confusion, nous ne voulions pas vous mégenrer.
Intéressant comme mot. Bien, si vous êtes des copains d'Hermès, je suppose qu'on va pas discuter dans la rue.
Entrez, vous avez la tête de gens qui ont été en prison. Vous avez été en prison ? En tout cas, vous en avez les manières, au moins un d'entre vous.
Nous avons fait un petit séjour, mais vous savez, nous sommes totalement innocents, vous n'avez rien à craindre de nous.
Arrêtez de me prendre pour une truffe, les ouvreurs, je sais très bien qui vous êtes.
Alors, ça va commencer à bien faire, parce que les ouvreurs, c'est pas nous. On n'y est pour rien, on était là, c'est tout, on n'a pas ouvert les portes, on était juste présents, on est des victimes dans cette histoire, ça commence à être pénible.
Declan, calme-toi.
Je suis calme, j'explique.
Elle se tourne vers toi, elle te regarde avec des grands yeux. C'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Comment pouvez-vous dire que vous êtes des victimes alors que vous avez libéré tout un peuple? Si Lincoln avait aboli l'esclavage sans faire exprès, est-ce qu'il n'aurait pas été content quand même de l'avoir fait?
Mais il n'a pas tué 110 personnes en une nuit pour pouvoir le faire.
Il a tué bien plus de gens.
Enfin bref, vous savez donc que nous ne vous voulons aucun mal et donc nous venons en toute amitié pour vous demander des conseils. Voilà, il y a des personnes qui ont mal agi dans cette affaire, mal agi envers vous, mal agi envers nous. Et nous souhaitons leur faire des retours plutôt destructifs.
Tout n'est pas très clair dans ce qu'il dit.
Jamais. Déclane, continue.
C'est-à-dire que nous voudrions retrouver ceux qui nous ont mis dans l'embarras, ceux qui nous ont coûté 7 ans de notre vie en prison, et les sanctionner.
Ah, là c'est clair.
Pour les sanctionner, nous avons envie de... Puisqu'ils se sont servis de nous pour quelque part ouvrir, nous voudrions que eux aussi profitent de cette ouverture.
Ça y est, il ne devient plus clair. Est-ce que tu peux m'expliquer, Big Boy ?
Ce que veut dire Declan, c'est que on va rendre la monnaie de la pièce.
Dites clairement ce que vous me voulez.
On veut tuer Seamus Murphy et qu'un possédé prenne sa place.
C'était clair. Elle s'assoit sur un grand fauteuil capitonné. Elle a un air extraordinairement pensif. Personne n'a jamais fait. Pourquoi personne n'a pensé à... C'est du génie. Vous voyez que vous méritez votre titre. Vous venez de trouver un moyen de libérer plus d'entre nous. Par contre, ça n'a jamais été fait.
Et vu que je débute, moi, dans tout ce qui est négociation, parce que je vous avoue qu'en prison, on n'a pas vraiment...
Attends, tu es en train de me dire que tu es invocateur ? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? Tu as décidément bien des qualités, mon chou.
Vous me flattez. Pour tout vous dire, je commence. J'ai appris les bases, j'ai déjà un petit peu discuté avec des gens, mais quelque chose d'aussi gros, tout seul, j'aurais trop peur de faire n'importe quoi. Et...
Je comprends. Compte sur moi. Big Boy, ton ami Declan et moi, on va avoir beaucoup de travail tous les deux à faire cette nuit pour essayer de mettre au point ceci, car même si je suis expérimenté, encore une fois, ça n'a jamais été fait. Donc, on va revoir les bases ensemble, puis essayer de poser une théorie pour voir si votre projet peut être mené à bien. On en a pour un moment. Ça va t'ennuyer.
Vous avez un bar ?
Non, mais toi, tu as une maison. Allez, à demain, Big Boy.
Declan ?
Je pense pas qu'elle me veuille du mal. J'ai peut-être plutôt peur qu'elle me veuille trop de bien.
Pendant ce temps, mesdemoiselles, vous vous rendez plus à l'est de la ville, vers l'adresse de Seamus Murphy. Il habite au pied de Remington Heights, l'une des collines où sont les quartiers les plus chics de la ville. Au côté sud de Remington Heights, faisant face à votre bonne vieille colline à vous, Paddy Hill, il y a une petite église, Saint-Victor, qui est au pied de la colline, et c'est dans ce quartier qu'habite Seamus Murphy. Pas très loin de l'église, on peut même dire à 2 rues.
Ce serait bien qu'on trouve un endroit d'où on puisse observer sa maison et ses allées et venues sans être trop visible. Moi, je me disais que ça pourrait être pas mal qu'on reste pas groupés, mais qu'on se voit l'une l'autre histoire de se protéger, tu vois.
Ça me va. Mais vraiment, il faut pas que je te quitte des yeux.
Ça peut se résoudre par un petit jet de dés, un petit shotgun. Donc, c'est neutre pour Lou. C'est un succès pour Sou. Tu as trouvé un endroit, mine de rien, c'est un quartier résidentiel assez paisible. Et on n'est pas encore à une époque aussi méfiante que la nôtre, et te garer dans un coin un peu tranquille et rester à ton volant en pensant juste de temps à autre à sortir, histoire que tu ne sois pas toujours derrière le volant, n'est pas très compliqué. Donc tu arrives à te garer au coin de la rue de Seamus Murphy avec une bonne vue sur sa maison, et il n'y a pas énormément d'allées et venues. Au pire, tu sais que tu n'es pas loin de la 33e avenue, et tu pourrais évacuer sans aucun problème et te fondre dans la circulation. Et tu aperçois Lou, qui s'est postée en face de la maison de Murphy. Elle est très bien cachée, elle a trouvé un banc où elle peut lire un livre tranquillement. Au bout d'un moment, il y a une vieille dame qui t'aborde, Lou.
Vous attendez quelqu'un, jeune fille ?
Oui, tout à fait. J'attends une amie qui m'a donné rendez-vous, ici, sur ce banc.
Ah bon ? Elle habite dans le quartier ? Vous savez, je connais tout le monde ici.
Ah non, mais elle habite pas vraiment ici. Elle vient rendre visite à des gens.
Ah, ça doit être une brave dame alors. Écoutez, je dois prendre mon bus, il passe là. Ça vous dérange si j'attends avec vous ?
Mais pas du tout, asseyez-vous.
Eh oui, parce que vous savez, à mon âge, oh là là, déjà que j'ai perdu mon mari, vous savez, il a fait le débarquement, mon mari. Ça, c'est un héros de guerre. Enfin bon, c'est un héros de guerre. Avant, je ne pouvais pas le supporter. Il caquetait en permanence. Je ne supporte pas les gens qui sont trop bavards. Mais alors, en plus, ah, excusez-moi, c'est ma sciatique qui me reprend. Et donc, elle commence à parler. Et parler. Tu n'arrives même pas à distinguer les moments où elle reprend son souffle. Et le temps passe, le bus est en retard en plus. Et vers la fin de journée, vous voyez une berline noire s'arrêter devant la maison de Seamus Murphy. Et il en descend, en bonne compagnie, de trois jeunes filles manifestement latinas et sans émettre de jugement social quelconque, manifestement prostituées. Dont au moins l'une d'entre elles, vous n'êtes pas certaine qu'elle soit majeure. Et tout ce petit monde rentre en piaillant dans la maison de Seamus Murphy. Ah bah écoutez, c'est mon bus qui est là. Oh là là, vous avez vu ce monsieur, il a mauvais genre. Il paraît qu'il est policier, mais alors il a mauvais genre. Et ça défile chez lui, je me demande quand on est quand même à deux rues d'une église. Il y a des enfants qui passent ici ramener des filles de mauvaise vie comme ça. Oh là là, moi ça me choque.
Vous le connaissez, vraiment?
Non, enfin, de vue, dans le quartier, on sait qu'il est policier, mais enfin, on sait surtout, des fois, il fait des soirées très bruyantes. Et on sait qu'il est policier parce que quand on appelle la police pour prévenir qu'il fait des soirées très bruyantes, eh bien, il ne se passe jamais rien. Et je vais même vous dire, Monsieur Johnson, qui habite juste ici, vous voyez, il n'est pas son voisin, mais juste à côté, eh bien, une fois, il a porté plainte pour tapage nocturne et c'est lui qui a eu une amende. Vous y croyez à ça? Vous y croyez à ça? Alors qu'une facile d'une chose de dévergondage et de dévergondage et de dévergondage, alors, enfin, je ne veux pas en parler, mais si mon mari avait été là, bon, sûr qu'il se serait rincé l'œil, parce qu'en plus, il était cochon. Mais, en tout cas, il aurait sans doute dit quelque chose.
D'accord. Et du coup, vous savez, il est souvent chez lui ?
Qui ? Mon mari ? Je vous ai dit qu'il est décédé.
Non, le monsieur qui est policier.
Eh ben, écoutez, vous me prenez pour une vieille qui regarde les allées et venues de tout le monde cachées derrière sa fenêtre, alors ça n'est pas du tout mon genre. Hein. Écoutez, par exemple, hier, il est rentré à 17h. Mais c'est sans doute parce que son service se terminait plus tôt. Alors après, je suppose que ça dépend un petit peu des enquêtes policières. Il y a 2 ans, attendez, je crois que j'ai mon petit carnet dans mon sac. Il y a 2 ans, c'était juste après qu'il ait fait la fameuse soirée. Non, ben non, parce que sinon mon mari... Ah ben oui, alors attendez. Oui, en tout cas, il a des allées et venues, quoi.
D'accord, et vous tenez un carnet de ces allées et venues ?
Oui, par contre, mon bus est là. Excusez-moi, je ne vais pas le rater, sinon... Alors, votre compagnie est charmante, mais hein, vous savez, après, les gens... Elle entre dans le bus sans jamais cesser de parler.
En fait, on voulait avoir une fille. On a eu une jeune fille au pair pendant que nous étions jeunes, qui était venue... Alors, je ne sais pas pourquoi elle était venue, parce qu'une jeune fille au pair...
J'essaie de lui subtiliser ce carnet.
Ça me va très bien, ça va demander un petit jet, bien entendu.
C'est neutre.
Tu perds donc 20 points de doigté, et tu te retrouves avec un carnet dans la main. Oui, ça n'est pas difficile de voler un carnet à une vieille dame.
En suivant la scène depuis mon rétroviseur, je m'aperçois que c'est peut-être le moment d'aller rejoindre Lou pour qu'on passe à l'action. Et oui, on y va à deux, mais il aura les mains occupées, là. C'est un peu le moment où jamais, non ?
Très bien. Tom, que fais-tu en sortant de chez Cordelia ? La nuit commence à tomber.
De mon côté, je suis un peu pris de court. Et étant donné que je sais que les filles sont en plan que chez Seamus... Je vais tenter de les rejoindre. An old cowpoke been riding
out one dark and windy day. À côté de chez Seamus Murphy. La nuit est maintenant bien tombée, et par les lumières du rez-de-chaussée de la maison de Murphy, vous voyez plusieurs fois passer des silhouettes, vous entendez des rires, vous entendez parfois des cris lascifs, et le bruit d'un petit pick-up qui envoie de la musique.
On va attendre que ce monsieur ait fini de se fatiguer ?
Soit. Eh bien, il semble avoir une forte endurance, monsieur Murphy. Vous entendez son rire gras à plusieurs reprises. Et plusieurs fois, vous entendez que le rire d'une des jeunes filles se transforme en cri plus douloureux. Du coup, Tom, tu as le temps de les rejoindre. Je ne vous embête pas, vous arrivez à vous retrouver... Sans trop de difficultés, tu repères la voiture dans laquelle les filles sont en planque.
Eh bien, mais c'est pas bien caché.
Tu dis ça parce que tu connais la voiture.
Bon, actuellement, Murphy est avec 3 prostituées. On attend qu'il se fatigue un petit peu, et puis avec un petit peu de chance, on rentrera pendant qu'il s'endort.
Donc tu es en train de me dire que vous attendez qu'il ait fini, qu'il se rhabille, qu'il se réarme ? Non.
Oui, mais c'est notre plan.
On est en train d'attendre qu'il s'endorme.
Donc j'avance vers la porte avec l'arme au poing.
Donc je sors de la voiture et je le rejoins.
On va pas te laisser t'amuser tout seul, Tom, attends-nous un peu.
Eh bien, vous vous retrouvez tous les trois devant la porte.
Que je défonce.
Bien. Ça va quand même mériter un petit shotgun, ça. C'est une porte assez lourde.
Alors. C'est neutre.
Eh bien, tu dois t'y reprendre à plusieurs reprises pour enfoncer cette porte. Ce qui fait que, au bout du deuxième coup, les mouvements cessent immédiatement à l'intérieur. Vous entendez très rapidement les cris des jeunes filles. Et quand tu fais éclater la porte enfin, eh bien, c'est un Seamus Murphy armé qui se tient devant toi en caleçon. T'aurais jamais dû venir ici. Il arme son fusil directement et se propose de vous tirer dessus.
Pas si on lui tire dessus d'abord.
Très bien, eh bien nous allons donc enclencher une joyeuse fusillade. Il n'y a pas d'initiative comme dans plein d'autres jeux. Tout le monde fait ses jets et tout le monde encaisse les dégâts.
Alors le but ce serait de lui tirer dans les coudes s'ils sont visibles, sinon dans les genoux, histoire qu'il lâche son fusil.
Je ne tire pas. Je me planque quand je vois que Tom défonce la porte, je me planque contre le mur.
Allez, chacun fait ses jets.
6.
C'est neutre.
Alors, commençons par ce que vous encaissez, car il a réussi à tirer aussi. Vous perdez 70 dans votre cave de solidité et 20 points de gros moyens. En un échange de quelques balles, une énorme détonation, donc Lou, tu vois que Sou est projeté en arrière et tombe limite à tes pieds. Tandis que Tom, comme à son habitude, encaisse bravement la décharge de chevrotine qu'il prend dans le ventre. Et tire plusieurs balles. Murphy immédiatement plonge sur le côté pour se remettre à l'abri dans son salon. Comment procédez-vous ? Deuxième round.
Je le suis et je le tire dessus.
Je me penche et j'essaie de voir dans quel état est Sou. Je suis tout bib.
Critique. Il va falloir faire un bon jet pour pouvoir la sauver. Je reviens vers toi après pour ça.
Je vois dans quel état il est, lui.
Tu es sûr qu'il a été touché par vos deux balles ?
Je tire et puis bon, si je le tue, ben c'est tant pis.
Très bien, ça me va.
C'est neutre.
Lui te rate. Ce qui fait que tu n'encaisses aucun dégât. Et par contre, cette fois, ta balle le sèche pour le coup. Vous avez Seamus Murphy étendu dans son salon. Et trois prostituées dans le salon qui crient tout ce qu'elles peuvent crier. Enfin deux, puisqu'il y en a une qui est déjà sortie par la fenêtre. Tandis que l'odeur de poudre se dissipe un petit peu dans le salon de Seamus Murphy, rappelons que les joueurs ont employé ce que l'on appelle des gros moyens, c'est-à-dire des armes qui font des dommages bien plus forts que de simples coups de poing. Il risque donc maintenant la mort. Le personnage de Lucy se retrouve à être étendu au sol, elle va donc faire un petit jet pour voir si elle est morte ou pas. C'est très simple, elle va jeter un dé à 6 faces, comme sur une roulette russe. Elle va choisir un chiffre. Si le dé tombe sur ce chiffre, elle est morte. S'il tombe sur n'importe quel autre chiffre, elle survit.
D'accord, ce sera le 5, les amis. J'ai fait un 6.
Bien, Sou survivra à cette fusillade, mais en subira des séquelles. Donc elle reprend très vaguement conscience. Que faites-vous ?
Est-ce que les prostituées sont en train d'essayer de partir en courant ?
Oui.
J'en attrape une à la volée.
Pas trop de difficultés pour ça.
Je l'immobilise et lui sors tout l'argent que j'ai sur moi. Tu retrouves tes copines, vous partagez toutes les trois. Et soyons clairs, vous nous avez pas vus. Cet homme est mort, on sait pas comment.
Alors, il va falloir me faire un petit jet pour que tu... En fait, c'est surtout pour que tu sois sûr que le message soit passé et qu'elle ne se barre pas toute seule dans son coin avec l'argent.
C'est un succès.
Très bien. Tu es à peu près persuadé de l'avoir convaincue et qu'elle va s'exécuter. Enfin, exécuter tes ordres. Et elle part en courant. Vous constatez que Seamus Murphy n'est pas mort. Il est inconscient, en sale état, mais pas décédé.
Je le hisse sur mon épaule et je pars avec.
J'indique à Tom de le poser dans la voiture et pendant le trajet, j'essaie de stabiliser.
Vous embarquez donc Seamus Murphy, ou du moins ce qu'il en reste. Et tandis que votre voiture part en crissant des pneus et rejoint la 33e avenue,
Au milieu des gyrophares qui commencent à vous croiser pour s'approcher du lieu de la fusillade, nous allons lancer le générique de fin de cet épisode de No More Mr. Nice Guy et écouter notre réalisatrice Ambre pour sa rubrique musicale.
Salut l'ami. Puisqu'on est au mois de décembre, j'étais bien obligée de vous sortir une petite musique de Noël, non ? Oh, pardon, Declan m'annonce Yule. Quant aux asservis, je ne suis pas sûre de leur avis sur la question, mais tant pis. Alors, un petit point sur Blue Christmas, une chansonnette de Noël enregistrée pour la première fois en 1948 sous la houlette de Hayes et Johnson et chantée par un certain O'Donnell. Une petite chanson d'amour triste qui arrachera peut-être une larmichette à certains de nos protagonistes. Et puis, nous n'avions pas encore exploré la country. Ah, cette musique vous dit quelque chose, mais pourtant vous ne retrouvez pas quoi. Peut-être parce qu'elle a été reprise de nombreuses fois, ou que vous avez entendu sa version la plus connue qui date de 57 et sort sur l'album spécial de Noël du grand Elvis, où elle prend des accents plus rock and roll. Allez, faisons un petit bond dans le temps avec ce son-là. Nos héros n'en seront rien. Chut. I'll be so blue, just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. If you're not here with me, and when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be due. With your Christmas of white, but I have a blue, 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 blue Christmas. Blue, 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 blue Christmas.